Staat de voet, staat de cinéma, muziek. Chacun d'entre nous, quelque part, nous cherchons des modèles. Nous aimerions qu'il y ait quelqu'un qui, avec quelques années d'avance, quelques expériences d'avance, nous montre la voie. Et cela est d'autant plus vrai dans la vie chrétienne. Moi, je ne vous connais pas. Mais il y a une chose dont je suis certain. La plupart d'entre vous, vous peinez dans votre vie chrétienne. Vous êtes à un moment donné confronté à des situations, des difficultés, des tentations où vous ne savez pas comment vous en sortir. Vous chutez, vous rechutez, vous recherchez la face de Dieu, vous demandez pardon. Mais parfois, il y a ces cercles vicieux et chacun en cherche finalement un modèle qui, de par sa façon de vivre, nous dit « c'est possible de vivre la vie chrétienne jusqu'au bout ». Et le sujet que j'aimerais aborder avec vous cet après-midi, c'est justement « recherchons », c'est le sujet sur la feuille, « recherchons top modèle ». Dans l'Écriture, force est de constater que la plupart des hommes et des femmes dont la vie nous est racontée, la plupart de ces hommes et de ces femmes terminent moins bien que ce que nous aurions souhaité. Je viens de donner un cours cette semaine, ou terminer un cours à l'Institut biblique de Genève sur le livre des juges. Et lorsqu'on regarde tous ceux qui étaient juges pendant cette période de 350 ans, on constate que plusieurs de ces juges terminent mal. La plupart d'entre vous, vous avez entendu parler de Gédéon. Vous en avez entendu parler dans l'école de dimanche. Gédéon, qui finalement commence sa mission avec Dieu, en abattant l'autel païen sur le terrain de son père, qui érige un autel à l'honneur de Dieu, mais qui, à la fin de sa vie, construit un autel dans sa vie natale qui devient, dit le texte, un sujet de prostitution pour lui et pour toute sa famille. Et tout Israël est égaré. Finalement, parce que cet homme termine moins bien. Samson, celui dont la vie amoureuse était totalement chaotique, il couche avec tout ce qui bouge. Il conduit finalement dans un combat contre les Philistins, mais il agit toujours par esprit de vengeance, par colère, par haine. Et il termine misérablement. Nous avons besoin de modèles. Et Paul dit dans cette épître aux Philippiens que nous avons entamée ce matin avec les aînés en haut, il dit ceci. C'est osé. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Dans la plupart de ses lettres, Paul invite ses lecteurs à l'imiter. Soyez mes imitateurs. Et un tout petit peu plus loin, dans cette même épître, il dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. » Et ma question cet après-midi est la suivante. Qui est-ce que vous avez appris comme modèle qui vous dit de par sa manière de vivre sa vie chrétienne que c'est possible de vivre une vie chrétienne qui honore Dieu. Je ne suis pas en train de parler de personnes parfaites. Je suis en train de parler de personnes irréprochables. C'est-à-dire des personnes qui, tout en reconnaissant qu'elles ont des faiblesses, des fragilités, elles savent comment s'approprier de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu, se relever après la faute et continuer à marcher. David, le roi, couche avec Bathsheba. Et à un moment donné, le prophète Nathan vient voir David et il lui raconte une parabole. Et David, en écoutant cette parabole, il est en colère. Parce que Nathan, dans cette parabole, arrive à dire à David que quelqu'un a commis une faute, un péché grave. Et lorsque David se met en colère, Nathan dit à David, « Tuez cet homme, tuez cet homme. » Et David, psaume 51, malgré le fait qu'il avait péché contre Bathsheba, malgré le fait qu'il avait péché contre Uri, malgré le fait qu'il avait péché contre Joab, malgré le fait qu'il avait péché contre tout le peuple d'Israël, il dit, c'est contre toi et toi seul que j'ai péché. Nous avons besoin de modèles. Pas des hommes parfaits, pas des femmes parfaites, mais des hommes et des femmes qui vivent une vie transparente, honnête, intègre, reconnaissant leur faiblesse, confessant leur péché, se relevant et disant à tous ceux qui les observent, c'est possible. C'est pour ça que Paul peut dire dans ce texte, soyez tous mes imitateurs. Mais, aussitôt après, dans ce texte, il nous dit que malheureusement, il y a des mauvais modèles. Parce que nous devons, toi et moi, nous devons choisir les modèles que nous voulons suivre. Et d'où ma question, une fois de plus. Qui est-ce que tu as comme modèle? Quelqu'un en qui tu as confiance et tu veux imiter sa façon d'être, sa façon de vivre? C'est un choix, c'est ton choix. Et Paul, ici dans ce texte, en parlant donc de ce phénomène d'être imitateur de l'apôtre, en même temps, il dit il y a de mauvais modèles. Écoutez-le, tout de suite après. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Je vous en ai souvent parlé. J'en parle encore maintenant en pleurant. La fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu le ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et Paul est en train de parler des personnes dans l'Église. C'est un langage imagé. Mais il est en train de dire que dans l'Église, il y a des personnes, bon, ils utilisent ce langage, ils ont comme Dieu leur ventre, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais c'est un langage imagé pour dire que il y a des chrétiens qui finalement vivent selon leurs appétits, selon leurs passions, selon leurs convoitises. Et par conséquent, il nous faut nous méfier de mauvais modèles. Paul, dans pratiquement toutes ses épîtres, entame ce même discours. Lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens, aux Éphésiens, aux Colossiens, il est toujours en train de dire que « Regardez-moi, Suivez-moi, soyez mes imitateurs. Mais lorsqu'il parle des mauvais modèles, il parle dans toutes ses lettres de tous ceux qui vivent en fonction de leurs appétits, de leurs passions et de leurs convoitises. Il est impossible, impossible, avec autant de jeunes réunis cet après-midi, qu'il n'y ait pas vraiment de problèmes réels sur lesquels moi je veux mettre mon doigt. Parce que parfois vous avez autour de vous, chers jeunes, de mauvais modèles. Les jeunes qui fréquentent avec des non-chrétiens, qui cherchent toutes sortes de prétextes pour finalement rationaliser. Je prie pour que Dieu puisse toucher son cœur et l'amener à la foi. C'est un mauvais modèle. Ceux qui marchent dans la désobéissance à la parole de Dieu, Paul les appelle ici dans le texte les ennemis de la croix. C'est une désobéissance. Et ceux qui finalement vivent ainsi dans l'Église, ce sont des mauvais modèles. Il y a des jeunes qui vivent à la colle, probablement parmi vous. Des jeunes finalement qui ont des rapports sexuels, qui n'attendent pas encore jusqu'au mariage. Des jeunes qui rationalisent parfois en disant « mais finalement le rapport sexuel, c'est le mariage, c'est faux. C'est une ignorance totale de la parole de Dieu. » Et nous observons autour de nous de plus en plus de dérapages, de plus en plus, finalement, de jeunes qui s'écartent de la parole. Paul parle ici en disant, il y en a parmi vous qui marchent en ennemis de la croix, qui suivent les passions et les convoitises de la chair, et parfois, de par leur manière de vivre, entraînent d'autres à vivre de la même manière. Soyez mes imitateurs, dit Paul. Est-ce que cela vous étonne de savoir que pratiquement dans chaque lettre que Paul écrit et où il parle des péchés des chrétiens, pratiquement à chaque fois, en tête de liste, et à tout ce qui concerne finalement la sexualité. Paul sait, comme vous le savez, que c'est probablement le domaine le plus difficile où nous avons à lutter en tant que chrétiens. Paul dit à Timothée à un moment donné, « Fuis les passions de la jeunesse. » Timothée avait 35 ans. Les passions de la jeunesse ne sont pas réservées à ceux qui ont 15 ou 20 ans. Les passions de la jeunesse sont les mêmes à 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, et je peux dire encore à 70 ans, et je vous dirai peut-être à 80 ans aussi. C'est un domaine de combat constant. Par conséquent, lorsque Paul parle de ce sujet, « Soyez mes imitateurs », tout de suite, il met en évidence qu'il peut y avoir de mauvais modèles. Il nous faut choisir donc, dit Paul, de bons modèles. Et j'aimerais vous donner, cet après-midi, quelques idées pour que vous puissiez chercher de bons modèles, mais pas seulement. Quelques idées pour que vous puissiez, à votre tour, devenir de bons modèles. J'ai parlé de Timothée. Timothée est dans ce texte. Écoutez, Paul dit, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. » Timothée, dites, on a posé la question tout à l'heure, Martin, par rapport au chant que les moins de 20 ans et les plus de 20 ans, les femmes, les hommes et ainsi de suite. Combien d'entre vous, vous avez entre 15 ans et 25 ans? N'ayez pas honte, hein, ça arrive à tout le monde. 15 et 25 ans. Dites oui. Dites oui.
Oui.
Ça va. 25 ans et plus. Voilà les croulants parmi vous. Hein. Ils sont là. Timothée. Lorsque Paul arrive à Lystre lors de son premier voyage missionnaire, il se convertit vraisemblablement à ce moment-là. Il a un contexte pieux, une famille chrétienne, sa mère, sa grand-mère. Son père était grec, païen. Mais Timothée se convertit. Il avait, si on fait un petit peu le recoupement avec les histoires bibliques, il avait environ 19-20 ans. Lors du deuxième voyage missionnaire, lorsque l'église de Philippe est fondée, lors du deuxième voyage missionnaire, Paul recrute Timothée. Il avait 21 ans. Et Paul prend Timothée avec lui. Et il fonde une église à Philippe, ensuite à Thessalonique, ensuite à Bérée. Et puis Paul descend jusqu'à Athènes. Et depuis Athènes, Timothée, il a 21 ans, 22 ans. Depuis Athènes, Paul envoie Timothée à Thessalonique. Pourquoi faire? Pour fortifier les chrétiens dans leur foi. Chrétien depuis à peu près 2 ans, 3 ans maximum. Et ce jeune est envoyé par l'apôtre pour fortifier les chrétiens à Thessalonique dans leur foi. Donc c'est vrai. Nous cherchons des modèles, mais nous avons besoin d'être des modèles. Peu de temps après, Timothée avait probablement vers l'âge de 25 ans. Il l'envoie à Corinthe. L'église de Corinthe était une église pénible. Il y avait de l'inceste. Il y avait finalement toutes sortes d'excès. Une église avec beaucoup de compétences et de dons, mais une église où il y avait le désordre. Mais Paul n'a pas hésité une seconde à envoyer Timothée à Corinthe, également pour affermir, édifier cette église. Non seulement nous avons besoin de chercher des modèles pour nous, mais nous avons besoin d'être des modèles pour les autres. Parce que la plupart d'entre nous, nous apprenons ce qui est essentiel par rapport à notre comportement, par l'observation. Certes, il y a tout ce qui est écrit. Mais nous prêtons énormément d'attention à ce que nous observons et nous imitons. Vous demanderez aux parents. Pratiquement tous les enfants imitent à un moment donné leurs parents. Ils entendent, ils écoutent, mais ils imitent. Par conséquent, nous avons besoin de modèles et nous avons besoin d'être des modèles. Et donc, on peut se poser la question, dans quel domaine, dans cet épître, est-ce que Paul nous encourage à chercher des modèles et à être des modèles? J'aimerais vous proposer quelques domaines. Tout premier, c'est toujours dans ce chapitre 3, où Paul, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, il nous dit que pour lui, l'essentiel, c'est de connaître Christ. C'est de connaître Christ. Toute autre chose, il dit, je compte comme étant de la boue. Mais je veux connaître Christ. Vous avez besoin de modèles, de personnes qui vont vous enthousiasmer pour la parole de Dieu, pour davantage approfondir votre connaissance de Christ. La vie éternelle, dit Jésus, c'est de le connaître. Par conséquent, nous avons besoin de personnes qui vont passer du temps avec nous, dans la parole de Dieu, pour approfondir notre connaissance, pour enrichir notre connaissance et nous enthousiasmer pour cette écriture. Vous savez, dans mon parcours, je suis un privilégié. J'ai eu des modèles extraordinaires. J'ai commencé ma carrière dans le service avec Opération Mobilisation. Et l'un des tout premiers orateurs dans une conférence d'OM que j'ai écouté en dehors de Georges Verwer, c'était un homme du nom de Ralph Challis. Et Ralph Challis était un homme qui nous a encouragés dans la lecture et l'étude et la méditation de la parole de Dieu. Lui-même nous disait que chaque année, il lisait la parole de Dieu en entier. Pour moi, cette rencontre avec Challis a eu lieu en 1964, pratiquement 50 ans. Depuis 50 ans, pratiquement chaque année, je lis ma Bible en entier chaque année. Car je me rends compte que c'est finalement en plongeant mon regard dans la parole que je stabilise et j'enracine ma vie chrétienne. Et en même temps, c'est comme cela que je connais Christ. Chercher des modèles qui vont être des panneaux indicateurs vers la parole de Dieu et qui vont vous enraciner dans cette parole. Devenez des modèles auprès des plus jeunes que vous, vous qui avez donc de 25 à 35 ans, ou vous qui avez de 20 à 25 ans, devenez des modèles auprès des plus jeunes chrétiens et plongez le regard dans la parole. Nous chantons beaucoup de chants par rapport à cette question de connaissance de Christ, mais le problème, ça s'arrête là trop souvent. On ne prend pas le temps. Si je devais vous poser une question embarrassante que je peux poser parce que moi je repars à Genève ce soir. Combien d'entre vous, vous avez votre Bible avec vous? Oh non, je ne vous demande pas de vous lever la main. Je ne veux pas vous faire honte. On vient dans des rencontres comme celle-ci, dans des conventions, où on dit on va finalement écouter la parole de Dieu et la plupart des personnes viennent, main vide. Moi, je dis, une personne qui se promène et va au culte sans sa Bible et va dans une convention sans sa Bible, c'est comme un type qui se promène sans pantalon dans la rue. C'est honteux. On dit tous être attachés à la parole de Dieu. Mais finalement, est-ce que nous le sommes vraiment? Est-ce que vous avez un modèle, vous? Est-ce que vous avez quelqu'un avec qui, toutes les semaines, vous étudiez la parole de Dieu? Quelqu'un qui va dire, mais on va parcourir tel ou tel livre ensemble. Est-ce que vous le faites avec quelqu'un? C'est l'un des domaines où nous avons besoin de modèles et où nous avons besoin d'être des modèles. Autre domaine, c'est toujours dans cette même lettre de Paul aux Philippiens, c'est... Nous avons besoin de modèles qui, de par leur façon de vivre, mettent en évidence le service. Nous ne sommes pas là comme centre de l'univers. Dieu n'est pas un satellite qui tourne autour de notre nombril. Dieu n'est pas là, finalement, pour mon bien. Mon bien-être et mon épanouissement ne sont pas les objectifs valables de la vie. Nous sommes là pour être des adorateurs de Dieu. Et qui dit adorateur de Dieu dit service. Et Paul, ici, dans cette lettre aux Philippiens, met en évidence le besoin de modèles qui démontrent ce que c'est le service. L'exemple par excellence, c'est le chapitre 2. Jésus-Christ. Chacun d'entre vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça, c'est le service. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui, lui, a démontré par excellence ce qu'est le service. Mais Paul aussi parle de lui-même comme étant un exemple de service. Il dit, nous l'avons lu, qu'il envoie Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Écoutez bien, où est-ce qu'il était Paul? Il était en prison. Il était à Rome. Il allait bientôt comparaître devant César. Il ne savait pas s'il s'en sortirait ou pas. Cette période d'emprisonnement aurait pu aboutir au martyre. Et pourtant, que dit-il? J'envoie bientôt Timothée afin d'être encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous. Il n'est pas en train d'écrire une lettre en disant « Priez pour moi, je suis en prison, c'est vraiment très difficile, je n'ai pas beaucoup de nourriture, je dors pas bien, je n'ai pas d'oreiller. » Non, non. Il écrit en disant « J'envoie Timothée parce que j'ai besoin d'avoir des nouvelles de vous. » Ça, c'est l'esprit de service. Il y a Timothée aussi. Verset 20 de ce même chapitre, il dit « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts. » Mais Timothée, ce jeune, lui, il a à cœur votre situation. Service. Il y a aussi dans ce chapitre Épaphrodite. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Il désirait vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Épaphrodite. Épaphrodite était envoyé par l'église de Philippe avec de l'argent pour subvenir aux besoins de l'apôtre Paul. Et Épaphrodite sert Paul en prison. Et Épaphrodite tombe malade, gravement malade. Paul dit qu'il avait peur même de le perdre et qu'il ait tristesse sur tristesse. Mais que dit le texte? Est-ce que Épaphrodite envoie une lettre de nouvelles? Je suis très malade, priez pour moi. Non, le texte dit ceci. Il était en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Il ne voulait pas vous accabler. Il ne voulait pas vous charger davantage. Et Épaphrodite était vraiment attristé parce que vous avez appris sa maladie. Parce que lui, il veut servir. Partout dans cette lettre aux Philippiens, Paul nous présente des modèles de service. Et nous avons besoin de modèles qui nous démontrent ce que c'est le service. Et nous avons besoin d'être des modèles de service. Dans les années 60, ici en Belgique, la mission évangélique belge était dirigée par un Américain du nom de Homer Payne. Homer Payne était l'aumônier du général Patton pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et lorsqu'il a traversé la France, il a rencontré des chrétiens à Toul, dans le nord de la France. Et de par cette rencontre, il a compris qu'il devait revenir en francophonie pour servir. Il a fini ses études. Et puis, il est revenu d'abord à l'Institut Emmaüs en Suisse, Institut biblique, et ensuite ici en Belgique, comme directeur de la mission évangélique belge. Pendant les années 60, il avait comme stratégie de recruter des équipes de jeunes et des évangélistes. Et pendant de courtes périodes, il les mettait dans des villes ici, en Belgique francophone, et pendant 3, 4, 5, 6 semaines, évangélisation intensive avec l'idée, après ces quelques semaines avec beaucoup de personnes sur place, de créer une église. Laissez-moi vous dire que l'une ou l'autre de vos églises existe grâce à ces efforts des années 60. Par la suite, Payne vient en France travailler avec moi à OM. Il atteint déjà l'âge de la retraite. Il a déjà pratiquement 70 ans lorsqu'il part au Québec pour devenir directeur de l'Institut biblique Bethel à Sherbrooke au Québec. Il met en place quelques Québécois et lui-même part aux États-Unis, d'abord dans une maison de retraite. Mais après quelques temps dans cette maison de retraite, il a déjà 70 ans passé, il ne tient plus. Parce qu'il dit « je n'ai plus de contact avec les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur ». Donc, il quitte cette maison de retraite pour habiter dans un appartement à Minneapolis. Et à partir de cet appartement, toutes les semaines, il a pris la résolution. Chaque semaine, j'invite quelqu'un de ma résidence à venir manger au restaurant avec moi pour que je puisse lui annoncer l'Évangile. À 87 ans, il crée une mission pour l'évangélisation en Bolivie. Et tous les ans, depuis 87 ans jusqu'à 97 ans, il part en Bolivie avec des jeunes pour évangéliser, construire des bâtiments pour la mission, entre autres une école. Pendant les 10 dernières années de sa vie, il me demande, Mike, j'aimerais que tu fasses mon enterrement. Tous les ans, il me rappelle, Mike, tu es toujours d'accord de faire mon enterrement? Pas de problème. À un moment donné, lorsqu'il avait 97 ans, il me téléphone, je pars à l'hôpital, Mike, j'ai des problèmes de cœur, prépare-toi. D'accord? 15 jours plus tard, il me rappelle de nouveau, fausse alerte, ça va bien. 98 ans, Mike, tu es toujours d'accord pour faire mon ensevelissement? Et là, je commence à avoir des craintes. Et je lui dis, mais tout dépend qui part d'abord, toi ou moi. Et en 2010, il est décédé. Il arrivait sous peu à ses 100 ans. Et je suis parti aux États-Unis pour faire son ensevelissement. D'abord, ensevelissement militaire, parce qu'il était donc officier de l'armée américaine pendant la guerre. Ensuite, dans son église. Et pendant la cérémonie, celui qui présidait, avant que je ne prêche, a demandé à ce que tous ceux qui s'étaient partis avec Homer Payne en Bolivie pour les camps d'évangélisation en tant que jeunes, qui viennent sur l'estrade. 170 personnes qui viennent sur l'estrade pour chanter. Et après ça, un jeune de 20 ans qui vient sur l'estrade pour témoigner. Garrett, il s'appelait. Garrett s'est converti à l'âge de 17 ans, 3 ans auparavant. De suite après sa conversion, Homer Payne va vers lui. Garrett, tu veux qu'on étudie la Bible ensemble? Oui. Toutes les semaines, jusqu'à 3 mois avant sa mort, Homer Payne, à l'époque 97 ans, Garrett 17 ans, étudie la Bible ensemble. Et Garrett, lors de l'ensevelissement de Homer Payne, il parle de tout ce qu'il a reçu dans ses études bibliques. Un modèle par rapport à la parole, un modèle par rapport au service. Et Garrett termine son témoignage avec beaucoup d'émotion. J'ai perdu mon ami Homer. Tu as des modèles? Qui est le modèle pour toi? Qui est la personne, homme, femme, vers qui tu vas pour l'étude de la parole, pour finalement te préparer au service? Quels sont les modèles de connaissances et de services que tu as et pour qui es-tu, toi, un modèle de connaissances et de services? J'ai amené ce livre que j'ai fait traduire il y a 3 ans. Génération Challenge. Alex et Brett sont des jumeaux. À l'âge de 15 ans, ils ne savaient pas quoi faire pendant leurs vacances d'été. Et ils le disent, ils avaient le malheur de le dire à leur père. Et le père a dit, voilà les livres à lire. Et à l'âge de 15 ans, tout d'un coup, ils se sont rendus compte que eux, en tant qu'adolescent, finalement, leur concept de l'adolescence était totalement étriqué. Le terme adolescent, en anglais, teenager, c'est une invention de sélection de Reader's Digest en 1943. Le terme n'existait pas avant. Parce qu'en début du XXe siècle, cette catégorie socio-économique d'adolescents n'existait pas. Je pense à mes parents, quittent l'école à 13 ans pour travailler. Mais on a inventé cette catégorie et ça a permis à ce que toute une génération puisse finalement faire des études, apprendre des métiers, et c'était un avantage énorme, mais avec des problèmes associés. C'est que finalement, cette étape de vie, adolescence, est devenue une étape de consommateur et non une étape d'acteur. Et Brett et Alex ont dit, c'est faux. Nous devrions être dans notre monde des acteurs et pas des consommateurs. Et ils ont créé un mouvement intitulé Rébellion. Une rébellion des adolescents contre les attentes médiocres de leurs aînés. Nous avons fait venir Alex et Brett pour un congrès de jeunes. Et ils ont parlé aux jeunes en les exhortant, en les encourageant, au lieu d'être des consommateurs dans leur monde, d'être des acteurs. Et dans ce livre, il y a passablement de témoignages de jeunes qui ont accepté ce défi. Il y a Zach. Zach, un jeune de 17 ans, qui ne savait pas parler en public. Jamais est-ce qu'il aurait pu devenir prédicateur ou pasteur. Mais Zach se rendait compte qu'autour de lui, en Amérique, il y avait énormément de pauvres. Et il avait à cœur de faire quelque chose pour les pauvres. Et il a créé un mouvement intitulé « Loose Change », les pièces perdues. Vous le savez tous, dans vos maisons, il y a dans les fonds des tiroirs ou derrière les coussins du canapé, il y a toujours des pièces de monnaie. Loose change. Et Zach a créé ce mouvement pour que des ados puissent, avec l'accord de leurs parents, collecter tout ce qui était ces pièces perdues derrière les coussins, dans les fonds des tiroirs, pour donner pour les pauvres. Et ça a fait feu parmi les adolescents. Et à l'âge de 19 ans, Zach gérait un budget de quelques millions de dollars. À l'âge de 19 ans, Zach était reçu par le Congrès américain et par la Maison Blanche. Chez jeune. Moi, j'ai eu l'énorme privilège de m'engager dans l'œuvre de Dieu lorsque j'étais étudiant à 19 ans. Ne perdez pas ces années vitales de votre vie. Utilisez ces années qui sont ces années extraordinaires pour finalement fonder sainement votre vie. Et pour fonder sainement votre vie, vous avez besoin de modèles qui mettent en évidence le besoin de vous attacher et de vous enraciner dans la parole de Dieu. Et vous avez besoin de modèles qui vous démontrent ce qu'est le service. Et vous, que vous ayez 15 ans, 25 ans ou 35 ans, arrêtez, devenez des modèles pour d'autres qui vous regardent, qui vous observent. Deux remarques. Pour terminer, lorsque Paul dit ici « Soyez donc mes imitateurs », quelques versets auparavant, il dit ceci. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Peut-être certaines choses que j'ai dites cet après-midi vous ont choqué. Peut-être le fait que j'ai parlé de ces mauvais modèles, par exemple ceux qui vivent à la colle ou ceux qui ont des rapports sexuels avant mariage et qui rationalisent, ou de ceux qui finalement fréquentent avec des non-chrétiens et pensent que finalement c'est un moyen d'évangéliser, c'est des mauvais modèles. Peut-être ça vous choque, mais peut-être c'est ton cas. L'évangile, La bonne nouvelle, c'est que quel qu'ait été ton passé, quel qu'ait été ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, même si tu vis l'une de ces situations que j'ai décrites, il est possible pour toi, comme l'apôtre Paul, en quelque sorte, de venir au pied de la croix, en oubliant ce qui est en arrière, pas dans le sens que tu deviens amnésiaque, mais dans le sens que tu déposes, tu confesses, tu reconnais que ce n'est pas à la gloire de Dieu. Et tu dis, au pied de cette croix, moi je veux devenir, pour ceux qui m'observent, un modèle. Je suis un peu craintif, parce que je ne connais pas très bien la parole de Dieu. Je ne sais pas très bien où démarrer dans le service. Mais au pied de cette croix, je veux mettre derrière moi ce passé. Et je veux d'une part chercher un modèle qui est pour moi un appui, et d'autre part, je veux être un modèle pour qu'une génération de personnes enthousiastes et enrichies par la parole de Dieu, pour qu'une génération convaincue que l'on doit poursuivre un seul but en tant que jeune chrétien, le but du service. C'est possible. Et moi, je t'invite à y réfléchir. Veux-tu, à partir de cette convention, toi, chercher un modèle? Quelqu'un auprès de qui tu peux aller en disant, écoute, moi, je boite dans ma vie chrétienne, je lutte, mais j'ai besoin de quelqu'un d'autre qui m'aide et qui prie pour moi, qui n'a pas peur de me rentrer dans l'art et de m'aider à avancer. Est-ce que tu veux être cette personne pour moi? Est-ce que tu veux faire ça? Et est-ce que toi, tu veux devenir un modèle pour ceux qui t'observent aussi? Peut-être tu es dans un foyer chrétien où tu as de plus jeunes frères et sœurs. Peut-être l'un ou l'autre qui ne connaît pas encore le Seigneur. Est-ce que tu veux être un modèle pour ce plus jeune frère et sœur? Ou peut-être tu es responsable pour un groupe de jeunes, mais ta responsabilité se résume dans l'animation musicale, dans le ludique. Il est temps que nous soyons des modèles dans la connaissance de la parole de Dieu et dans le service. Deuxième chose, dernière chose. Moi, je vous lance le défi. Achetez ce livre cet après-midi. Lisez-le. Réfléchissez. Je ne devrais pas, en tant qu'adolescent, être un consommateur, un assisté. Je devrais, en tant qu'adolescent, un chrétien né de nouveau, je devrais être un acteur. Comment puis-je le devenir? Laissez-vous inspirer. Et par ce qui est dans ce livre, et par le site qui existe en français, larévolution.com, laissez-vous inspirer. T'as pas d'argent? Tu peux pas t'acheter ce livre? Va à la librairie. Tu demandes ce livre ou tu mets ton nom parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'exemplaires. Tu demandes ce livre, tu mets ton nom, ton adresse et je te l'offre. Mais lis-le. Parce que tu as besoin, toi, d'avoir des modèles et de devenir des modèles. Prions. Te remercions d'abord, Seigneur, pour l'exemple que tu nous as laissé. Tu n'as pas réfléchi d'abord à tes propres intérêts, mais tu as vraiment réfléchi aux besoins des autres. Tu n'as pas hésité un instant à te dépouiller de toute la gloire que tu avais. Tu n'as pas hésité un instant à finalement laisser de côté l'utilisation de toutes tes prérogatives divines pour venir sur terre. Tu n'as pas hésité un instant à vivre une vie de modèle. y compris dans l'obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Merci pour cette multitude de témoins que tu laisses aussi autour de nous. Ces hommes comme Paul, Timothée et d'autres, qui nous montrent que c'est possible de vivre la vie chrétienne jusqu'au bout, que l'Évangile est un Évangile puissant et efficace. Et nous te demandons de permettre à ce que nous puissions, ici, en Belgique, devenir une force puissante pour toi et pour l'Évangile de Christ. Nous reconnaissons volontiers, quand nous-mêmes nous n'avons pas les ressources, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton Saint-Esprit, nous avons besoin de l'effet purificateur et renouvellement de ta parole. Mais viens nous en aide et veuille nous conduire dans ces voies, nous te prions, pour la gloire de ton nom. Amen. N'oubliez pas d'aller au stand, vous n'avez pas d'excuses, même si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez obtenir ce livre. Merci.